Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
Grosse journée dans l'actualité, mais avant de commencer, on peut saluer les nouveaux auditeurs qui se joignent à nous aujourd'hui, parce qu'on est dans les émissions, disons, en vedette aujourd'hui sur Apple Balado, Apple Podcast, Mario.
Oh,
alors pour ceux qui nous, pour ceux qui nous découvrent,
notre résumé d'actualité quotidien.
Exact. Alors, on fera le tour de ce qui a marqué la journée dans l'actualité, en commençant une fois de plus avec les cas de COVID qui sont en hausse chez nous. D'ailleurs, tôt aujourd'hui, Christian Dubé l'avait dit, vous allez voir, là, lorsqu'on donnera les chiffres autour de 11h, ben, on va atteindre presque 1200 cas. Et c'était le cas, 1196 nouveaux cas au Québec. C'est en hausse assez forte parce que si on prend la semaine dernière, le mercredi, c'était 882. Alors, c'est presque 40% de hausse de semaine en semaine. Deux nouveaux décès. Et un chiffre qui monte, qu'on ne voyait pas monter beaucoup depuis plusieurs semaines maintenant, c'est les hospitalisations, ça fait même plusieurs mois, plus 12.
Ouais, mais ça fait 3-4 jours de suite.
C'est
là.
Ça, on peut dire facilement 30 patients de plus hospitalisés au total. On comprend qu'il y a des patients qui entrent et qui sortent.
Mais on comprend en même temps que pour le nombre de cas de COVID qu'on a eu, mettons, dans les deux dernières semaines, si on se rapportait à pareille date l'année passée avec le même nombre de nouveaux cas, on aurait eu trois fois plus d'hospitalisations.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est un seul de plus aux soins intensifs. Alors, on est dans des chiffres quand même assez bas. Mais c'est toujours la tendance qui inquiète. D'ailleurs, c'est toujours Omicron, ce nouveau variant qui est surveillé partout à travers le monde. En Afrique du Sud, entre autres, là, endroit où bon, le variant semble être arrivé. En deux semaines, là, le bond est vraiment considérable. On était à 300 nouveaux cas par jour en moyenne il y a deux semaines. On est à 3500 cette semaine. Alors, c'est un bond immense. Et dans les derniers jours, on est passé, là, pour vous donner un exemple, 2200 cas lundi, 4000 hier et 8000 aujourd'hui. Alors, c'est une montée vertigineuse. Le taux de positivité est à 27%.
Ça, aussi, ça n'a jamais
élevé.
Été vu. Là. Jamais
été vu ça souvent.
Jamais vu ça, je pense. Non. D'habitude, ça ne dépasse pas 6, 7, 8.
Et les jeunes de 10 à 19 ans et de 20 à 29 sont les plus ciblés. Il y a une fin d'année scolaire, des fêtes à cette époque-là de l'année, semble-t-il, qui sera un genre de moteur.
Pas assez de gens vaccinés, clairement, bon, là-bas. Ça. Les trois quarts des gens sont pas vaccinés.
Vraiment trop bas. D'ailleurs, le Omicron, on le surveille un peu partout. Aux États-Unis, premier cas détecté qui a été confirmé en Californie dans les dernières heures par le Centre de prévention et de lutte contre les maladies dans un communiqué. Bon.
C'est sûr qu'il y en a plus que ça. C'est sûr qu'il n'y a pas juste un cas aux États-Unis. Il y a un cas qui a été identifié, mais...
Et d'ailleurs, parce que je t'en parlais la semaine dernière là, sur le fait qu'on fermait les frontières avec des pays africains, est-ce que c'est la bonne chose à faire dans la mesure où l'Afrique du Sud a été... ils ont été transparents, rapides à détecter le nouveau variant. C'est un peu ce que disait aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU, disant que le virus est sans frontières, que les restrictions de voyage là, qui isolent un pays ou une région sont injustes et punitives, surtout que c'est immoral, sachant à quel point l'Afrique australe fait un bon travail dans ce dossier-là, a été transparent et là, subi des sanctions, alors que ce qu'on devrait, c'est leur envoyer des vaccins, ça a été le point de l'ONU. Ce qu'on devrait pour les voyages, c'est davantage tester des voyageurs que d'interdire des pays, selon lui, sachant que déjà, un peu à la grandeur de la planète, on retrouve des cas de ce variant Omicron.
Mais c'est certain qu'il y a une... Ben, s'il y en a autant que ça en Afrique du Sud, je dois quand même dire qu'il faut être prudent, là. Mais... On n'empêchera pas le variant Omicron de rentrer au Canada. Il est dans à peu près tous les pays d'Europe. Aux États-Unis, ils m'ont fait rire aujourd'hui. Bon, notre premier cas. OK, votre premier cas. Imagine, c'est sûr, Vincent, qu'il y a plusieurs cas du variant Omicron aux États-Unis parce qu'ils sont pas détectés. Les gens sont pas allés se faire tester. Dans un grand pays comme ça, où il y a tellement de monde qui voyage. S'il y en a des cas dans tous les pays d'Europe, d'un pays de 350 millions d'habitants, les États-Unis, convaincu qu'il y en a plus qu'un. J'ai pas de doute. Là. Statistiquement, je suis sûr qu'il y en a plus qu'un.
Absolument. On peut le croire. D'ailleurs, Dr. Anthony Fauci faisait le point aujourd'hui sur la situation aux États-Unis. Alors que chez nous, Christian Dubé, ce matin, a dit s'inquiéter là, de cette hausse au Québec. Elle est revenue sur le dossier de Noël, entre autres. Je vais vous faire entendre le ministre de la Santé sur cette inquiétude par rapport à la montée de cas au Québec.
1200 cas aujourd'hui, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce qu'une croissance importante. On revient à notre plus haut du dernier mois. On n'est vraiment pas fini avec la vaccination des enfants. On n'a pas fini avec la vaccination de nos plus âgés. Moi, en ce moment, là, je suis dans le quotidien. Les Québécois, je le dis, là, ont suivi les mesures sanitaires. On a un des meilleurs taux de vaccination. On a un des meilleurs taux de pénétration du virus. Soyons patients pour une autre semaine, puis on reviendra avec des annonces sur Noël.
Ouais, parce que là, Noël, Christian Dubé semblait pas du tout enclin à promouvoir des rassemblements plus grands en ce moment-là. Il faudra être patient, pas aller dans le même sens que François Legault hier, voyant les cas monter. La vaccination des jeunes va bien, mais c'est 12 000.
François, les propos de François Legault doivent être un mystère, même pour Christian Dubé. Là. Pourquoi?
On est déjà passé par là.
Pourquoi nommer les chiffres de 20-25? François Legault qui dit, on pourrait faire des rassemblements à 20-25. D'abord... Sincèrement, là, on est en 2021. Les familles ont rapetissé. Je dis pas que personne a ça, des rassemblements, peut faire ça, des rassemblements, les rassemblements de 20-25, mais je pense que dans la grande majorité des familles, là, on se rend pas là. La maison est pas assez grande. On faisait ça dans le temps des familles de 14, là, des rassemblements énormes. Donc là, tu dis, OK, mais la plupart des gens font peut-être des rassemblements à 12, 13, T'es-tu en train de les encourager à inviter plus de monde cette année? T'es sûr que t'aurais pas oublié quelqu'un pour faire un plus gros rassemblement? Fait que j'ai pas... Et surtout dans la mesure où la police débarquera pas dans les maisons, faut responsabiliser les gens. À la limite, s'il y a une chose qui devait obséder le gouvernement, c'est de fournir des tests rapides aux familles pour les amener à la maison, puis dire, bon, ben, le soir qu'on fait, on fait un gros souper, puis qu'il va y avoir des personnes âgées, là, mais dans la journée, tout le monde va se tester pour être sûr qu'on fait pas de merde, là, t'sais, qu'on va pas gâcher le temps des fêtes, puis rendre du monde malade, puis tout ça. Moi, je trouve qu'on est beaucoup plus dans la responsabilisation et la prudence. Bon, il y a le variant Omicron, mais j'ai pas compris. Là. On n'est pas. On
mais c'est pas quoi à gagner là-dessus? Parce que ceux qui sont tannés des mesures, ça aide pas dans la. Parce qu'on se doute que ce sera probablement
pas possible.
Toute façon,
je sais.
C'est comme si
lui espérait que là, la personne, comme tu dis, la personne qui est tannée des mesures, elle va se dire. Ah ben, M. Legault, lui, il me l'aurait permis.
Ah, oui. C'est
mais
la faute à
c'est le satané docteur Arruda là, qui a pas voulu. On n'a pas 4 ans. Là.
Non. On voit par contre le taux de vaccination monter par jour, là, cumulatif de 94 000 doses administrées. 12 000 jeunes de 5 à 11 ans qui ont reçu leur première dose hier. Alors ça va somme toute assez
bien.
Ça
va aider. Là. Ça va aider parce que dans les cas quotidiens, je voyais encore tout à l'heure là, le chiffre des éclosions dans les écoles primaires. C'est vraiment énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de cas qui circulent dans les écoles primaires. Donc, la vaccination des enfants, même une dose, je pense, ça va... c'est sûr que c'est deux doses, la vaccination complète, mais même là, une dose, à mon avis, va calmer un peu la propagation dans le milieu scolaire.
D'ailleurs, justement, là, parce qu'on va parler de Montréal maintenant, la santé publique qui a fait le point aujourd'hui sur la situation à Montréal, et on le voit que les éclosions, c'est beaucoup dans les écoles. On est à 180 éclosions en ce moment gérées dans les écoles à Montréal. C'est ce que dit donc Mylène Drouin, la directrice de la santé publique à Montréal. Tandis que donc ça monte encore dans les écoles pour l'instant, alors que c'est stable dans les milieux de travail et c'est en baisse dans les milieux de soins. Alors vraiment, là,
la troisième dose d'un CHSLD, puis il n'y en a presque plus. Hein. C'est comme miraculeux. Là. Dans les CHSLD, il n'y a presque rien.
Et une des inquiétudes, on le sait, là, c'est Omicron. On sait qu'il y a eu un cas à Montréal. Et là-dessus, la directrice de la santé publique à Montréal a été quand même rassurante sur le fait que c'est un seul cas. Et il ne devrait pas y avoir de cas secondaires reliés à ce cas-là, du moins. Je peux vous faire entendre Mylène Drouin là-dessus.
L'angle à adopter, c'est un angle de prudence et on travaille sur plusieurs plans. Jusqu'à présent, à Montréal, on a eu un premier cas lié à un voyageur qui est isolé, c'était quelqu'un d'asymptomatique, doublement vacciné. Et l'ensemble de l'intervention mise en place là, nous amène à croire qu'il n'y aura pas de cas secondaires. Là. Il y a un isolement très strict qui est mis en place et il n'y a pas eu de contact avec la communauté. Et pour le moment, évidemment, nous n'avons pas d'indication là, qu'il y a de la transmission communautaire ou quoi que ce soit. Puis quand on regarde, évidemment, le profil épidémiologique ou les tendances, il n'y a pas lieu de croire, là, avec les tendances qu'on a, qu'on aurait quelque chose de nouveau là, qui serait là depuis quelques semaines.
Ben, si on se fie à ce qu'on voit en Afrique du Sud, quand on va voir une région ou une sous-région ou un village ou un quartier où il y a du Omicron qui se propage, on va le savoir vite, là.
Ça, t'as une flèche qui monte.
On va voir arriver plein de cas au centre de test.
Donc ça, c'était quand même rassurant de voir. Au moment où on commence à tester Omicron, on se dit, oh non, il y a des cas qui vont arriver, sortir un peu partout peut-être, mais c'est pas implanté en ce moment chez nous. D'ailleurs, dans les petites informations, là, qui se sont ajoutées, les groupes les plus touchés en ce moment à Montréal, les 5 à 11 ans, les 35-54, et les quartiers les moins vaccinés sont les plus affectés, Anjou, Pointe-aux-Trembles, Saint-Michel et Côte-des-Neiges. C'est parti depuis ce matin, la grève générale illimitée qui s'amorce dans 400 CPE affiliés à la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, qui amorçait donc cette grève ce matin, bouleversant le quotidien de nombreux parents à la grandeur de la province. Donc, les augmentations salariales des autres employés, donc en dehors des à l'extérieur des éducatrices, constituent le principal point, on sait, au centre de cet imbroglio, de cette mésentente. Je vais vous faire entendre premièrement François Legault aujourd'hui qui dira rappeler que selon lui, les offres étaient raisonnables, voulait mettre de la pression sur les syndicats. Vous allez l'entendre en plus de Sonia Lebel sur ce conflit qui se poursuit au Québec.
Moi, ce que je veux, là, c'est que tout le monde comprenne que le problème, c'est pas les éducatrices en garderie, ce sont les employés de soutien. Là, pour l'instant, c'est pas clair dans le message des syndicats.
Je mettrai pas de date sur ma limite. J'ai pas de date à mettre sur ça. Moi, je suis prête à travailler jour et nuit. Mes équipes sont disponibles 24 heures sur 24. Mais je comprends fort bien que chaque jour qui passe pour les parents est un jour pénible dans l'organisation du travail.
Mais la ministre a dit qu'elle est prête à travailler jour et nuit. Je mets pas ça en doute. Je suis convaincu que c'est vrai. Mais dans les faits, hier, c'était ce matin le début de la grève générale illimitée. Donc, c'était un gros test hier. S'il y avait été, mettons qu'il y avait été proche d'une entente, là, je veux dire, tu quittes pas la table. Là. Tu restes dans la soirée. À la limite, tu fais venir du poulet. Tu restes une partie. On a déjà vu ça minuit, 1h du matin, 2h du matin.
Si on est proche, là, on va trouver.
On va trouver. Donc, si tout le monde... Hier, là, tout le monde est parti à l'heure du souper. Le syndicat a fait son communiqué. On part en grève demain matin. Même en fin d'après-midi, heure du souper. Là, t'sais, à peu près à cette heure-ci, vers 5h, tout le monde est... Donc, il faut comprendre ce qu'il y a à comprendre. C'est que tout le monde constate... Bon, on n'est pas on n'a pas d'entente, on n'est pas proche d'une entente, on n'est pas un cheveu d'une entente là. On s'en va chacun chez nous, puis il y aura grève demain. Et ce matin, les propos de François Legault, qui a tout redonné le détail là, de l'offre, qui a redonné le chiffre de 23%, c'est ce qui est offert. Donc les éducatrices, 23%, les menant à un salaire de 30$ l'heure là, au sommet de l'échelon, des échelons. Puis que le conflit, puis même le syndicat corrobore ça, là, que le conflit est vraiment au niveau de toutes les autres fonctions administratives, entretien ménager, cuisine, qui sont des fonctions importantes, à qui on offre une bonification salariale aussi, mais pas du même ordre. Tu sais, l'ajustement, en fait, des 23%, je pense que j'ai jamais vu ça. J'essaie de me souvenir d'une négociation où on a donné des augmentations. Parce que là, on dit que c'est un rattrapage, il y avait, puis c'est vrai, c'était des gens qui étaient pas très bien payés, mais quand même... Tu peux pas dire que c'est un automatisme. Ben, 23%, on le donne à tout le monde. Puis là, tu arrives à un point où j'écoutais ce matin même l'opposition Québec solidaire qui questionnait François Legault. Puis tu sais que l'opposition dit, si eux étaient au pouvoir, parce que là, ce qu'ils demandent essentiellement, c'est arrêter de négocier le gouvernement, donner aux syndicats ce qu'ils demandent. Tu dis, OK, s'ils gouvernent... Ça va bien aller.
Il n'y aura pas de conflit.
Il n'y aura pas de conflit, pas de grève. Parle-moi de ça. Ça va bien aller. Ça va bien aller.
Ça va, c'est ça. Il y aura une facture au bout de ça. Il y a la question, Mario, de l'appui là, des parents. On voyait dans des chiffres ce matin là, que 40% des Québécois, dont 52% des parents appuient les travailleuses des centres de la petite enfance.
Je pense que c'est globalement vrai. J'ai deux remarques. Est-ce que ça va s'effriter dans une grève générale qui pourrait durer des semaines? Là, je prépare les gens. Moi, je pense pas qu'il y aura une loi spéciale. Pensez pas qu'il y aura une loi spéciale demain matin. Donc, moi, je pense à un conflit qui s'étire. Deux. C'est toujours traître un sondage. Tu demandes aux gens, est-ce que vous appuyez la spontanéité des gens, c'est de dire, oui, là, ils gagnent pas beaucoup ce monde-là, on les appuie, là. T'sais, on appuie les éducatrices. Ils font un bon travail. Bon. Si on avait reformulé la question, ben tu peux peut-être dire que ma question est biaisée, mais si tu avais formulé la question avec les faits, là, en disant, ben là, les éducatrices, on leur offre 23%, on n'offre pas la même chose aux autres employés de soutien, pensez-vous que ça justifie la grève? Est-ce que tu aurais eu le même 52%? Parce que, tu sais, la question est générale. Est-ce que tu appuies les éducatrices? Mais une fois que tu dis dans la question, on leur offre 23% d'augmentation de salaire, mais là, on leur offre pas... Pas sûr qu'on aurait le 52%. Peut-être que ça nuancerait que les gens, en entendant la question, se diraient, ben, tabarouette, là, 23%, c'est bon, on est content pour eux autres. Peut-être même que certains trouveraient ça beaucoup, là, tu sais.
Ben, je vais te faire entendre Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille, qui avait exactement ce propos-là à la sortie du Conseil des ministres tantôt, parce qu'on lui a demandé, ben, vous voyez, la population, en grande partie, donne son appui aux éducatrices. Ben, il a dit, en gros, que lui aussi, il appuyait les éducatrices. La question, c'était davantage la question qui allait être posée. Je vais vous faire entendre Mathieu Lacombe là-dessus, qui confirme également que, ben, une loi spéciale, lui, il n'en veut pas.
Moi-même, je les appuie. L'ensemble du gouvernement, on veut les appuyer, mais là, à plus de 20 % d'augmentation, 23 % dans certains cas, pour certaines éducatrices qui font 40 heures, grève générale illimitée, moi, je vois que ça fonctionne.
Mais je veux dire, votre patience, c'est quoi la limite de votre patience?
Là, vous voulez me parler de loi spéciale? On vous le dit,
non,
on est clair. OK, ben, c'est parce que là, souvent, on se fait questionner.
Quand même, une date
oui, mais je veux juste être clair, là, parce que nous, là, d'entrée de jeu, on n'a jamais dit on envisage la loi spéciale, et là, ça sort comme ça. Moi, je vais être clair, là. On veut régler ça de façon négociée, Mme Lebel et moi. On n'a pas du tout l'intention d'aller vers une loi spéciale.
Moi, je m'attends pas à une loi spéciale, donc c'est un conflit. C'est pour ça que c'est un conflit. Pour que les partis reviennent à la table, un peu plus négociable, des fois, ça prend une fatigue, là. Ça prend une durée de grève. Mais c'est épouvantable pour les parents, j'en suis bien conscient. Mais c'est peut-être la grève qui est malheureusement nécessaire dans un domaine où les relations de travail sont très difficiles depuis des années, où il y a des grèves, des menaces de grève, des journées de grève à répétition depuis 15 ans, là, et plus. Peut-être que c'est la grève qui va permettre d'avoir la paix ensuite.
Tout savoir en 24 minutes.
C'est aujourd'hui qui était présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi 15 qui vient modifier la direction de la protection de la jeunesse au niveau de son mandat, de ses enligements, où on va donc le point central, l'intérêt des enfants confiés à la DPJ devient l'élément primordial de toutes les décisions les concernant. S'il y avait un certain flou, selon Lionel Carman, le ministre, avant dans l'ancien texte, où on disait que c'était le retour vers la famille qui était primordial. Or, ce n'est pas toujours ce qui est bon pour l'enfant. On dit, dans certains cas, là, c'est important de rester dans une famille d'accueil, par exemple, plutôt qu'être transféré à plusieurs reprises.
Mais c'est-à-dire que je pense qu'on définit un peu plus dans le ce qui est bon pour l'enfant une notion de stabilité. Là. On
oui.
avait cette fameuse métaphore des enfants barouettés, là, passe-moi l'expression québécoise, mais envoyés d'un endroit à l'autre, déplacés. Et ça, je pense qu'on vient mettre ça dans la balance en disant, un enfant peut pas vivre ça. Là. Oui, à un moment donné, il peut... Ta famille d'accueil, si les choses se sont bien replacées dans sa famille, on va le retourner dans sa famille, mais pas un préjugé favorable à la famille au point de dire, ah ben là, on va l'essayer une semaine ou deux, puis là, ça va pas, puis on le retourne, puis on le ramène, puis on le retourne, puis on le ramène. Ça, un enfant peut pas vivre ça.
Non, on dit l'important, là, c'est la famille, mais seulement si c'est dans l'intérêt principal de l'enfant et non pas des autres membres de la famille, en quelque sorte. Dans les autres points importants, là, les renseignements confidentiels qui sont détenus par des organismes ou par des professionnels pourront être communiqués à la DPJ à toutes les étapes de l'intervention si on juge que c'est important. On ne va pas perdre un enfant parce que quelqu'un qui devait respecter la confidentialité d'un dossier a gardé une information qui était importante. Donc, on pourra partager avec des partenaires, avec la DPJ, des informations importantes sur les enfants parce que dans le dossier de la fillette de Granby, ça aurait pu faire la différence, possiblement, d'avoir une meilleure communication entre des intervenants et la DPJ. Et le cadre là, pour la directrice nationale de la protection de la jeunesse, un poste qui avait été attribué dans les derniers mois, enfin en mars dernier, à Catherine Lemay, a été donc spécifié, là, encadré sur le fait que cette personne-là va exercer plusieurs pouvoirs sur les directeurs, les directeurs de régionaux, là, donc exercer des contrôles, faire des enquêtes, donner des directives, exiger des correctifs, donner des responsabilités. Ça permettra donc d'avoir une surveillance et un mandat assez clair pour ces directeurs-là. Et un des défis tout aussi complexe, c'est pas peut-être le plus complexe, diminuer la liste d'attente, là, parce que là, on est à presque 4000 enfants qui attendent d'être évalués. Là, on ignore la gravité dans ces cas-là. On veut favoriser le service de première ligne pour diminuer un peu cette pression-là. On est capable d'embaucher, par exemple, mais on a de la difficulté à garder les gens plusieurs années dans le réseau.
Puis il y a une stabilité de personnel. Là, quand tu as 17 intervenants qui passent dans le même dossier dans l'année, mais chacun de ces intervenants-là ne connaît pas vraiment l'enfant, ne connaît pas vraiment la situation. Là, il relit le dossier, les notes du précédent... S'il y a vraiment, vraiment un besoin de stabiliser les équipes, d'avoir le même personnel qui s'occupe des mêmes enfants pendant des durées significatives.
Autre annonce importante dans un sujet tout aussi important, la violence conjugale. Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre et ministre responsable de la sécurité publique, lançait et annonçait un nouvel outil contre la violence conjugale au Québec. Il y a plusieurs mois, on m'avait annoncé une série d'investissements, entre autres dans des organismes, par exemple, pour essayer de lutter contre la violence conjugale. Il va vraiment avec un outil très technique, là. Un bracelet anti-rapprochement. Donc, un ex-conjoint, par exemple, porte un bracelet au poignet à la cheville et la l'ex-conjointe, une conjointe.
Oui, il peut être à la maison aussi. Là. Il ne peut pas s'approcher de la maison, il peut être dans un lieu physique.
Exact. Et si les deux appareils se rapprochent trop, il y a une alarme pour la victime et pour les services de police aussi qui pourront intervenir. Donc là, tout ça va arriver à partir du printemps 2022, un pré-projet dans la région de Québec, et ensuite ce sera étendu à la grandeur de la province dans les prochaines années. Je vous fais entendre là-dessus Geneviève Guilbeault, qui voulait surtout spécifier à quel point c'était, selon elle, précurseur là, comme technologie, puisque très peu de pays dans le monde l'utilisent.
Et quand je dis que le Québec va être un précurseur, il n'y a aucun bracelet anti-rapprochement en ce moment qui est utilisé au Canada. Il y a 6 pays dans le monde qui l'utilisent. Et désormais, le Québec va s'ajouter à ces pays-là qui justement utilisent déjà le bracelet. Donc, c'est vraiment historique. Là. Quand je vous dis que c'est historique, ça l'est pour vrai. On se lance dans quelque chose de nouveau. Ça fait des années que des femmes réclament le bracelet anti-rapprochement.
Mais moi, je crois à ça dans le sens que moi, je suis toujours sceptique avec ces directives des juges, de ces ordonnances des juges. Pas le droit de t'approcher en dedans de tant de kilomètres, puis tout ça.
Souvent, c'est brisé à de multiples reprises aussi.
C'est brisé à de multiples reprises, de un. De deux, pour celui qui veut vraiment faire du mal, là, battre ou tuer, la directive, c'est une farce. Si t'as l'intention de commettre un geste là, plus grave de violence, ou je veux dire, la directive, c'est la 48e de tes préoccupations. Là, je veux dire, t'as l'intention de poser un geste qui est infiniment plus grave que contrevenir à l'ordonnance du juge sur le kilomètre là, de distance. Donc, tu veux avoir quelque chose de concret qui rend l'ordonnance du juge vraiment applicable, il faut que tu te donnes les outils technologiques, puis ils existent aujourd'hui.
Autre dossier quand même d'importance, puisque à la Chambre des communes aujourd'hui, Mario, la Chambre a voté à l'unanimité pour la fin des thérapies de conversion au Canada. Et ça s'est fait plus rapidement que prévu en raison de l'intervention des conservateurs qui ont décidé, c'est le député conservateur Rob Moore qui s'est levé en Chambre pour proposer l'adoption en deuxième et troisième lecture sans débat.
En accéléré.
Donc ça a été adopté instantanément.
Mais je pense que les conservateurs ont joué un tour au libéraux, là, parce que je dis pas que je compte totalement les théories.
Tu fais toujours le jeu politique. Là.
Mais c'est juste ça. Parce que, Vincent, sincèrement, là,
oui.
Les théories mettons au Québec, y a-tu beaucoup de ça, là, des thérapies de conversion? Est-ce que le milieu gay, mettons à Montréal? Moi, mettons, j'ai été député, j'ai rencontré les associations gays tous les ans, jamais ils m'ont parlé de ça.
Non. Et ça existe, mais c'est
au Canada,
c'est pas,
peut-être dans des milieux religieux. Je dis pas que la loi est correcte, c'est correct qu'on ait ça au Canada. Mais les libéraux donnent une importance à ça, comme si c'était l'affaire que tout le monde souffre de ça, puis dans
ça change pas la vie de beaucoup de Canadiens aujourd'hui, ça.
Non, c'est ça. Et on y a donné une importance grande parce qu'on savait que ça divisait le caucus conservateur. C'est pour ça que les libéraux, là, le but de ça, c'était de voir les conservateurs mal à l'aise, les conservateurs religieux se dépêtrer. Puis les conservateurs ont décidé, passe-le, là. Puis là, comme si la fête est finie, il n'y a personne qui est mal à l'aise.
Vraiment, tu peux pas dire que les conservateurs sont méchants, ils étaient super contents aujourd'hui.
Ben oui, mais
ça se saluait d'un côté comme de l'autre.
Je pense qu'ils ont joué de la comédie un peu.
Bon.
Puis ils ont joué un tour aux libéraux en disant, regarde, là, vous nous étirerez pas ça pour nous écœurer pendant des jours.
Rappelez quand même que ces thérapies de conversion qui sont discréditées par tout le milieu médical, visent à changer d'orientation sexuelle. Et cette nouvelle version, ça a été 3 fois mort au feuilleton, entre autres en raison des élections, ce qui était dénoncé par les conservateurs en disant, voyons, vous dites que c'est important, puis à chaque fois que ça tombe. La nouvelle version est même encore plus sévère, donc interdit la publicité, la pratique de ces thérapies, mais interdit également aux adultes de chercher volontairement à suivre ce genre de thérapies qui sont jugées comme étant cruelles et dégradantes. Un mot en terminant, Mario, sur un télé-évangéliste. Je sais pas si tu as vu cette histoire. Marcus Lamb, fondateur du deuxième plus grand réseau de télé chrétien au monde, qui touche des centaines de millions de personnes dans le monde. C'est plus de 100 postes de télévision chrétiens. Marcus Lamb, 64 ans, un anti-vaccin qui sortait, lui, sur le réseau, là, toutes sortes d'histoires fausses, comme quoi le vaccin était pas efficace, comme quoi le vaccin avait des objectifs cachés, vantait l'hydroxychloroquine, tous ces médicaments-là qui ont pas fonctionné. Mais il est décédé de la COVID-19 dans les derniers jours, lui qui souffrait de diabète. Et on l'avait traité pourtant avec l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, sans succès. Et son fils est sorti aujourd'hui pour dire qu'il avait été victime d'une attaque spirituelle de l'ennemi qui cherchait donc à prendre son père pour lui nuire, vu qu'il tentait
C'est qui l'ennemi, c'est Belzébuth?
Ben, il l'a pas dit, c'est pour ça, je sais pas s'il parlait du diable ou s'il parlait de Bill Gates. Je l'ai pas compris, mais dit il a été tué son père, c'est pas parce que ben la COVID c'était réel puis que l'ivermectine ça marchait pas. Lui ça l'a pas chambranlé là-dedans, mais victime de ses fausses informations.
Musique, c'est quoi la petite musique genre tou dou 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 dou.
Un peu ça.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie, Vincent.